l'heure sonnante du débat. Bah là, il y a les autres cours qui sont prévus. Alors, par contre, je sais plus si on avait vu la Quinta del Sordo, c'est ça? La maison du sourd. Rappelez-vous que au début, le tableau d'origine, c'est Quetzal, hein, vous vous souvenez. Celui dont on parle, c'est celui-ci sur justement le temps et le rapport de Goya aussi au corps, hein, qui est un rapport direct. Sans distance, sans mise à distance, puisque ça, c'est quelque chose qui caractérise Goya. Donc il y a un regard d'une très grande lucidité, puisqu'il n'y a pas de phare, même s'il y a ici du phare, du maquillage. Goya n'a pas de distance. D'abord, on va dire pratique, on a l'impression que les corps sont au premier plan du tableau, toujours. La peinture est très tactile chez Goya, c'est qu'elle est souvent épaisse. Et il y a une sorte de crudité chez Goya, mais qu'on va voir, en fait, toute sa vie, c'est une espèce de crudité qui est plus de la lucidité que de l'ironie. C'est pas de l'ironie. C'est une véritable sensibilité, voire une empathie, mais qui passe par une sorte de vérité absolue. C'est-à-dire qu'il a une certaine empathie par rapport à ses sujets, à condition de, quelque part, les mettre à nu. Alors, on avait vu que c'est valable pour ces femmes qui, quelque part, ont finalement le droit de se parer encore, même si le miroir demande comment ça va, elles sont vieilles, etc. Le temps est derrière, mais quelque part, elles restent telles qu'elles étaient, et Goya est capable de jouer effectivement avec, quelque part, la beauté, la laideur, l'horreur, etc., mais sans finalement, sans se moquer réellement. Alors, on avait vu tout ça, rappelez-vous, et on avait même vu ces natures mortes sur les chairs. J'en étais arrivé, je crois qu'on avait vu le poulet et la tête de veau. Hein, donc, on était effectivement dans, quand on parle de crudité, de chair et de corps, hein, d'incarnation. Là encore, on a presque, chez Goya, on a presque une sorte de sensibilité, y compris pour l'animalité. Quand on parle de corps, c'est y compris le corps animal, c'est les présences. Alors, et vous aviez là aussi. Hein, la vie, elle réside où, hein? Est-ce que c'est le regard? Est-ce que c'est la chair? C'est quelque chose qu'on peut se poser aussi. Puisque le veau a encore l'air presque de méditer sur son existence. Toujours du premier plan, toujours très tactile, avec une peinture charnelle et sensible. Oui?
Je vais poser une question, je voudrais une réponse. C'est un lien avec le soutien ou pas?
Ah oui, Soutine a repris ça.
Qui fait le gros.
Ah ben ça, c'est le bœuf écorché de Rembrandt.
Et puis le Soutine aussi, je crois, oui. Dernièrement.
Oui.
Le gros, tout ça, suspendu. Qui,
oui, mais c'est un tiré du bœuf écorché de Rembrandt.
Qui a repris le.
Alors, Soutine reprend Rembrandt, et Goya Rembrandt, bon, il y a un siècle de différence, mais il y a des points communs, notamment sur l'épaisseur de la peinture, sur le corps, sur la chair, sur l'existence. Une sorte de questionnement sur soi. Hein, et qui passe aussi par la présence physique de la peinture. C'est pour ça que Goya, d'ailleurs, est dans la continuité de Gréco, de Velázquez, de Gréco et de Titien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc Titien, Gréco, Velázquez, c'est des peintres aussi du geste, c'est des peintres de la peinture matière. Hein, qui sont, on n'est pas dans des lointains, on n'est pas dans des architectures, ni des profondeurs, etc. On est vraiment aussi dans une présence physique. Et ça, on le voit assez clairement chez. Alors, rappelez-vous aussi, je vous avais montré le chien qui était en train de s'enfouir dans le sable, hein, et que l'on voit ici reproduit. Alors, l'idée aussi, c'est que Goya, quand même, s'isole, hein, il devient sourd. Alors, vous avez dit, je fais un petit rappel, il est exact contemporain de Beethoven, et d'ailleurs, il y a des points communs. Goya, Beethoven, leur tête, leur surdité, la force, la puissance, le tragique en même temps parfois. Des légèretés extraordinaires qu'on va voir tout à l'heure, et puis les mêmes dates. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on verra plus tard. Paradoxalement, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Espagne, on va le voir aussi, ce sont des gens qui sont à l'origine, comme Goya, des gens qui sont cultivés, d'origine populaire, comme Goya cultivé, qui voient la Révolution française d'un bon œil, en se disant ça va moderniser, c'est l'esprit des Lumières, c'est l'esprit, etc. Mais le train passe à part. D'abord, la guerre civile espagnole, la guerre espagnole sera terrible avec la violence les armées françaises va dégoûter complètement Goya, ça on le sait. Donc leur espoir, c'est aussi des espoirs déçus. Des espoirs déçus, leur propre pays n'évolue pas comme ils auraient voulu qu'il évolue. Donc il y a un sentiment aussi de solitude politique. C'est-à-dire qu'on avait vu le Goya aussi critique sur la famille royale. Alors attendez, par contre, je ne sais plus où j'étais arrivé, ça faut que je vérifie. Attendez. Ah, avec tous ces trucs-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire ? On avait vu Charles III. Voilà. Et donc, rappelez-vous qu'il y avait un Goya qui était aussi solaire, lumineux, etc. Lucide et critique sur le roi. Et donc, c'était cette espèce de regard critique aussi qu'il avait sur le royaume d'Espagne qui l'avait amené à avoir des sympathies pour les idées neuves qui se développaient en France et dans la philosophie des Lumières. Alors ça, je crois que j'étais arrivé ici. Et donc, rappelez-vous, je fais un retour en arrière par rapport à la peinture d'origine. Les Vieilles, c'est une peinture qu'il a faite, Catal, c'est une peinture qu'il a faite plus tard. Donc là, c'est un flashback pour montrer d'où vient Goya. D'où vient Goya, peintre de cour, peintre de tapisserie, et qui va évoluer progressivement en découvrant le milieu de la cour dans lequel il va jouer le jeu, parce qu'il va être séducteur, dragueur, réputé, beaucoup de succès, etc. Donc il joue le jeu un peu du courtisan, tout en restant lucide, un petit peu avec une certaine ironie, mais en étant assez sincère. Et puis progressivement, il y a pas mal de choses qui vont l'écarter, la médiocrité, la mesquinerie, l'humanité toute simple des personnes de la cour, qu'il réussit à traduire. D'ailleurs, on a vu le roi, il le voit comme un être humain, les princes et les princesses également, hein, avec un sentiment un petit peu de figure un peu perdue aussi dans un monde. Alors, rappelez-vous Watteau, hein, on n'est pas très loin aussi du regard critique de Watteau sur la cour, moins désabusé, parce que Goya est quand même dans un rapport direct avec les personnages, ils sont au premier plan, il y a une sensualité qui est très claire, on va voir d'ailleurs qu'il sera dans un rapport même très étroit avec certains personnages de la cour. Alors ça, c'est le frère du roi, je crois, c'est le nouveau roi, qui s'appelle Charles IV. Tout à l'heure, c'est Charles III, ça c'est Charles IV. C'est un Bourbon, donc il est la famille de Louis XVI, donc ils sont très proches. Et là, on le voit toujours avec les attributs du roi, c'est-à-dire le fusil et le chien, et dominant la terre, c'est-à-dire au-dessus de la ligne d'horizon, très nettement. Alors, on voit déjà la qualité de Goya pour saisir aussi la personnalité des... Il n'y a pas du tout de posture ni de mise. Quand on voit les portraits de Louis XIV, de Louis XV par exemple, qui sont extrêmement sophistiqués, lisses, mis à distance avec un masque presque du roi, là, on a quand même l'impression que Goya est capable de mettre à nu, y compris les visages des princes et des princesses, des rois et des reines. Alors on va voir que ça va même aller assez loin dans cette espèce de lucidité. Alors il continue à faire ses peintures de carton, hein, des cartons de tapisserie. Je vous avais dit que c'était l'occasion de peindre en grand de façon assez libre, puisque ce sont des peintures aussi décoratives, mais vous avez quand même une joie de vivre assez évidente, une sensualité des corps, une présence, une grande lumière, des jeux, un chromatisme très ravivé avec on a quasiment toute la gamme des couleurs pures de l'arc-en-ciel, presque indigo, enfin violet, rouge, orange, jaune, vert, bleu et presque pas du violet ici, pardon, du mauve là. Donc une gamme extrêmement colorée, très lumineuse, pleine de lumière, avec un décor ici, un paysage qui est presque plan décor. Donc là encore, présence physique et sensuelle. Mais la deuxième série des cartons de tapisserie de Goya commence à introduire des éléments un petit peu... pas critique, mais un peu plus ironique, hein, comme si au fur et à mesure de sa présence à la cour, ça a duré plusieurs, je crois que c'est deux décades, hein, dans lesquelles il vit et il est peintre de cour. Alors ça, c'est toujours des cartons de tapisserie, alors j'ai trouvé récemment, c'est des jeux d'enfants. Et rappelez-vous que c'est assez drôle, mais on va retrouver les jeux d'enfants, on les a trouvés chez Watteau, hein, tout d'un coup, une sorte de fascination pour l'innocence de l'enfance, on les a trouvés chez Bruegel, on les a trouvés chez Watteau, on les trouve aussi chez Goya. Comme si tout d'un coup, dans le monde de l'enfance, il y avait peut-être une vérité qu'il ne trouve plus ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Des cartons de tapisserie, puis c'est des gamins, cette fois-ci, du peuple. Ce n'est pas des gamins de la cour. C'est quand même des tapisseries royales. C'est-à-dire que à la cour, vous avez des sujets qui sont y compris des sujets populaire, mais Goya traite avec... Alors là, vous avez des sujets qui deviennent assez étonnants. Hein, le maçon blessé, le couvreur blessé. Vous voyez, on n'est plus du tout dans quelque chose qui est uniquement de la joie de vivre, etc. Vous avez des éléments, des enfants, des classes populaires qui jouent sur aux frontières de la ville, un maçon blessé, peinture de décoration, comme si Goya poussait un petit peu le, ce qui était que du décor, vers une sorte de lucidité, y compris dans le monde, hein, comme s'il poussait un peu les portes de la cour et du palais pour aller voir ailleurs. Rappelez-vous que quand même l'aristocratie au XVIIe, XVIIIe siècle s'est enfermée dans sa tour en France, Versailles, hein, on connaissait la coupure avec le monde populaire, Marie-Antoinette, etc. On connaît, on a vu Watteau aussi, donc on voit un petit peu. La cour espagnole, c'est pareil. Or, rappelez-vous aussi que les peintres comme Watteau, les peintres comme Goya sont tous issus du milieu populaire. Donc, ils ont aussi ce regard critique. Alors, pourquoi il le fait? Ces cartons de tapisserie n'ont pas été très étudiés au niveau de l'iconographie et de l'histoire de l'art. Moi-même, je les ai découverts assez récemment, parce que je n'ai jamais vu dans les livres sur Goya. C'est considéré comme des œuvres mineures, alors qu'elles sont très, très intéressantes. Là, vous voyez encore des enfants pauvres, des mendiants. C'est toujours ces cartons de tapisserie. Alors, je ne sais même pas ce que sont devenues les tapisseries. Est-ce qu'elles ont été tissées? Est-ce qu'elles ont été faites? Ou est-ce que ce sont juste des propositions de Goya? Je ne sais pas. Là-dessus, c'est à creuser. Alors, rappelez-vous que le carton de tapisserie a l'intérêt aussi... Là, vous avez aussi un élément qui, chez Goya, devient plus intime et personnel. Ça s'appelle le pantin. Je ne sais plus comment dire en espagnol. Muñecas.
Aussi. La poupée.
Oui, la poupée. Et là, c'est un jeu traditionnel où vous avez... On fait sauter une poupée dans un drap et en tendant le drap, on fait sauter. Et là, c'est un jeune homme qui est envoyé valser par des jeunes femmes. Et, jeune ou moins jeune. Et Goya commence à, qui est un grand séducteur, commence à avoir une vision qui devient un peu misogyne. Il devient un peu misogyne, et là, vous avez l'idée un peu d'être envoyé valser, envoyé balader par des femmes qui se moquent un peu, effectivement, du jeune pantin masculin ici. Donc, il y a une ironie. Donc, vous voyez, ces cartons de Goya sont un peu plus ironiques. Bon, ça, c'est un Colin Maillard plus classique. Là, encore des jeux d'enfants.
Toujours du peuple.
Et aussi, quand même, c'est toujours de la vie. Il y a toujours quelque chose de... Chez Goya, malgré tout, il y a une sorte de palpitation. Hein. S'il y a des lointains, c'est un peu comme un fond. Et puis, des corps qui sont pleins. Une sorte de plénitude. Là encore, des enfants qui jouent. Donc, le monde de l'enfance comme une sorte de monde un petit peu à part. Hein. Comme on l'avait vu avec le bateau. Une innocence, pas de calcul, du jeu, une certaine légèreté et une évidence dans l'être au monde. Au moment où Goya commence à se poser des questions. Alors, vous avez ici, attendez, les titres, une rare peinture mythologique de Goya, mais qui n'est pas innocente non plus, c'est Hercule chez Omphale. Et quand Hercule va chez Omphale, c'est le moment où il se féminise. Il arrête, il abandonne tout acte viril et guerrier, et il commence à filer la laine, à s'habiller en femme, à se maquiller, etc. Donc, quand Hercule va chez Omphale, c'est un moment considéré de faiblesse chez Hercule.
C'était moderne, là, déjà.
Alors, voilà. Et ensuite, Hercule va redevenir, on va dire, le Hercule de caricature viriliste et violent, etc. Mais vous avez donc, chez Goya, certainement, une interrogation sur la virilité. On sait aussi qu'il va être atteint de maladies vénériennes. Hein, d'ailleurs, la satiété vient de là. Et donc, les questionnements sur la misogynie qui va croître chez Goya vient sans doute aussi de déboires, de tensions, de maladies, ou etc. Donc, si vous voulez, c'est pas toujours innocent, ces sujets. D'ailleurs, c'est un peu bâclé. D'ailleurs, cette peinture, c'est pas du bon Goya, on pourrait en dire, si on l'a donné. Alors, il y a toujours ces commandes de portraits officiels. Quels que soient ces sujets, il y a quand même une belle présence, mais quand on voit ces aristocrates, ils ont quand même tous les yeux un peu fixes, et l'air un peu flottant et un peu perdu, hein, dans des décors flous, gris, avec même les enfants. Hein, donc quand on voit la différence entre les enfants qui jouent et ces enfants-là, vous voyez que Goya fait un écart assez net, que ce soit dans les corps, les postures, les regards et les contextes. Donc entre le gamin qui a un superbe carrosse et les autres qui jouent à la balançoire, vous avez aussi des sortes de bascules. Alors, ce n'est pas un système chez Goya, mais c'est son monde qui évolue progressivement. Alors, il y a des portraits notamment de... Attendez, je vérifie que c'est bien elle. Ouais, c'est bien la Duchesse d'Albe. Alors, la Duchesse d'Albe, ça va être une des figures importantes chez Goya. Il va faire plusieurs fois le portrait. Et il est plus que vraisemblable qu'elle fût sa maîtresse. Elle fut sa maîtresse, le duc d'Albe était souvent en partie, etc. Et Goya était un grand séducteur, en tout cas à ses débuts, etc. Et il est vraisemblable que... Alors, vous avez, il y a des dessins qui sont sans doute inspirés de la Duchesse d'Albe, qui sont sans beaucoup d'équivalent. Alors, ce qui est intéressant aussi chez lui, vous voyez, c'est l'audace parfois de colorer, avec des gammes qui sont peu courantes, dans le gris... l'utilisation du gris, c'est quelque chose qu'on voit rarement en peinture. Chez Goya, il y a souvent du gris. Le nacré, le gris, le noir, c'est une couleur qui est rarement utilisée en peinture. Maintenant, il y en a quelques-uns quand même. Mais là, vous avez une mise en scène de la chevelure noire qui est assez exceptionnelle, avec le blanc, etc. Alors, la Duchesse d'Albe, on va la voir plusieurs fois. Ça, c'est le Duc d'Albe. On fait le portrait du Duc d'Albe. Donc, avec aussi qualité et les chromatiques, le gris, etc. Et voilà la Duchesse d'Albe. Et voilà encore la Duchesse d'Albe, vraisemblablement. Des croquis et des dessins. Et là, on pense que c'est elle. Et là, vous avez quelque chose que l'on verra plus tard chez Goya, c'est des robes qui sont très très près du corps, justement. Comme si la robe d'apparat des ducs et des duchesses qui se cachent, qui voient, et tout d'un coup, c'est une robe qui se rapproche du corps et qui devient érotique, alors qu'elle a pour fonction, au contraire, d'instaurer une distance entre le corps, une distance sociale. Et ça, c'est quelque chose comme si, effectivement, il y a là encore l'idée de la mise à nu chez Goya, c'est quelque chose qu'on voit assez clairement. Duc, duchesse, prince, princesse, etc. Il voit avant tout des humains, et au-delà, justement, du costume, coutume, ou de la vie, etc. Et là, voilà des dessins de Goya. Alors, évidemment, les dessins n'ont pas vocation à être publiés. C'est des dessins, évidemment, privés. Et on peut imaginer que celui-ci, étant très clairement érotique, et en plus, pouvait prêter au scandale, puisque on était devant quand même une duchesse. Alors, Goya commence aussi, on est à avoir un regard critique et assez libre. Alors, c'est sans doute des peintures privées, donc il fait pour le bien, sur la religion. Car en Espagne, la religion, c'est une institution qui fut aussi d'une violence terrible au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, et même jusqu'à Franco, et même encore maintenant. Et là, vous avez le curé exorciste, avec y compris des fantômes et des fantasmes d'âne et de bouc, un bouc ou un bélier avec des seins, donc une sorte de diabolisme féminin et animal. Et ici, une sorte de curé exorciste qui a l'air en fait d'être impuissant, beaucoup plus faible que les démons qui peuvent l'assaillir. Donc vous voyez, là encore, il y a quelque chose qui craque. La religion, les institutions, le rapport social, le rapport au monde féminin. Chez Goya, il y a des choses qui sont... Il y a la tension permanente. Ici, c'est traité par le noir et blanc de façon très claire. Vous avez ici des peintures justement sur un tribunal d'inquisition. Donc là, c'est beaucoup plus critique. Vous avez cette fois-ci des foules, qui sont des foules comme des tas et comme des masses, ce qu'on avait vu dans ces peintures noires. Et... là, avec l'espèce de grotesque de ses costumes, ses humiliations, les juges, curés, moines, eux aussi, qui sont comme des tas et des masses, malgré le dispositif mise en scène plutôt imposante, puisque vous avez une estrade, vous avez des trônes, vous avez même une sorte de chair, vous avez un public, vous avez des costumes, et bien en fait, Goya ne distingue pas, on va dire, physiquement les moines ici, qui sont en train de juger ici, qui ont l'air endormis, joufflus, un peu monstrueux, et les pseudo-hérétiques qui sont représentés ici. Donc, très clairement, une vision critique. Donc, là, il y a. Alors, ici, la Duchesse, toujours les portraits. Alors, attendez, ça c'est toujours la Duchesse d'Albe. Alors, pourquoi elle est en noir ? Je ne pense pas qu'elle était veuve à cette époque-là. Donc, je vous parlais du noir, ici. magnifique aussi le travail de Noir. Le décor semble être quelque chose d'indifférent, hein. C'est pas connoté, on va dire, c'est pas son territoire, il n'y a pas de ville, voilà, c'est presque une sorte de fond coloré, mais qui ne dit rien, on n'est pas dans la narration. Ça aussi, chez Goya, il y a une présence immédiate, hein, comme si il était à distance tout le temps.
Qu'est-ce qu'elle montre avec son doigt?
Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas, cette posture, je ne sais pas ce que ça veut dire, alors... Vous avez par contre une gamme colorée ici, le noir, le jaune et le rouge, qu'on verra plus tard, hein, qui est chez Goya, qui est assez typique, alors c'est bête à dire, mais c'est très espagnol, le rouge et le jaune, le noir et blanc, sol, sangra, sangre et sol, c'est comme ça qu'on dit, l'ombre et la lumière, le sang et l'or, hein, donc c'est aussi des choses qui sont une sorte de presque une sorte de gamme nationale, comme on dit. Et vous avez aussi dans le travail de Goya, quelque chose de virtuose, parce qu'il est capable de traiter la dentelle avec des pinceaux, des lavis assez exceptionnels, hein, des nuances de noir prodigieux.
Mais elle a l'air sévère quand même.
Elle a l'air sévère, mais peut-être c'est Domina. Hein. Alors ça aussi, dans les duchesses, celle-ci s'appelle la comtesse de Chinchon. Et là, ce que je veux dire, la duchesse d'Albe est vraisemblablement assez comprise, c'est Goya, elle est présentée bien en pied, campé sur ses jambes, à l'extérieur, etc., regardant fièrement. Hein, donc vous avez aussi des attitudes par rapport aux peintres qui sont différentes, alors que celle-ci est perdue comme un petit oiseau, dans un gris, dans une sorte de pénombre douce, hyper sensible malgré tout. Un nacré remarquable d'une robe alors, je sais pas, satinée, absolument prodigieuse, des yeux par contre un peu perdus. Hein. Vous avez vu, il y a une sorte d'aristocratie qui semble perdue, dans un monde flou, que Goya perçoit parfaitement. Mais en même temps, il a une grande sensibilité. C'est un travail magnifique. Hein, donc, mais elle est complètement paumée. Quoi. Alors, on pourrait presque la mettre en parallèle avec la petite musicienne de Watteau, hein, qui était un peu, elle aussi, perdue dans un monde fermé. Alors là, vous avez, ça c'est terrible, c'est la Duègne et on dirait la Duchesse d'Albe.
Oui.
Hein, et ça s'appelle, le titre, c'est la Duègne qui tient la croix et la Duchesse d'Albe où une jeune femme aristocrate, belle robe, belle chemise noire, etc., qui, en gros, oui, se coltiner, cette personne qui voulait imposer une religion, sans doute une morale chrétienne, catholique, etc., qu'elle ne supporte pas, donc avec une certaine violence. Donc vous voyez la tension, une sorte de revendication. Alors, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle en Espagne, il n'y a pas le libertinage à la française, il n'y a pas ce genre de choses, donc vous voyez tout ce qui est aussi... liberté amoureuse ou affective ou sexuelle, ce sont des choses qui sont beaucoup plus violentes, dures à vivre, et même qui sont extrêmement pas du tout tolérées, ni même pensées, avec vraiment une religion omniprésente. Et là, vous voyez, un conflit, donc l'idée du conflit, on l'a le curé contre les démons et les diables, là ici, c'est la jeune femme contre la duègne, hein, le chaperon, alors ça c'est... C'est un truc tout bête, hein, mais même comme il s'appelle, il est funeste dans les grandes. La folie des grandeurs, il va reprendre ces idées-là, du chaperon, la duègne espagnole, hein, la femme qui contrôle la jeunesse, etc. Alors vous avez aussi avec Goya, puisque vous avez les choses qui craquent, et ça va craquer aussi du côté de l'esprit. Et vous avez une interrogation sur l'univers mental. L'univers mental, et là vous avez l'intérieur d'un asile. L'intérieur d'un asile, alors il n'y a pas de psychanalyse, il n'y a pas de psychiatrie, il n'y a pas de psychologie, donc vous avez effectivement des sortes d'enfermement de personnes malades mentales, enfin, comportementaux, et qui sont
livrées
à eux-mêmes dans la vie, dans une sorte de retour à une humanité totalement primitive et presque bestiale, et dans un de jour
presque,
en jour,
hein, pas presque,
totalement.
Monsieur Pinel. Quand il décrit ce qui se passait juste avant la Révolution française, il a des descriptions. En fait, on leur jetait du pain le matin, donc ils se battaient pour la nourriture. Donc, ces crises de démence, c'était terrible. Hein.
Voilà. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Goya, c'est le seul à l'avoir montré. Voilà. Alors, est-ce qu'il a été le voir? Mais vous avez donc chez Goya, quand je parle de compassion ou d'empathie. Effectivement, oui, sa gamme, elle est totale. C'est que ce soit l'aristocrate perdu dans sa cour, mais où il va percevoir la solitude, ou l'horreur et la monstruosité ou y compris les désirs du corps et en même temps les méandres de l'esprit, c'est vraiment chez lui, il y a toute la gamme. Là aussi, encore une cour d'Asie, avec de la folie totale. Hein, ça c'est là. Par contre, là non plus, j'ai pas vu beaucoup d'éléments sur la part d'observation qu'il y a chez lui par rapport à ses excès. Et on voit bien qu'il y a une inquiétude et une fascination aussi pour les gouffres qui représentent aussi l'esprit ou l'âme humaine. On l'a vu avec l'exorciste, on le voit ici avec la folie, et on va le voir aussi, évidemment, dans ces grands sabbats de sorcières, c'est que finalement, les frontières, y compris entre le réel et l'imaginaire, quand on voit d'abord que la réalité peut rattraper l'imaginaire, bon, les asiles deviennent effectivement des sommets d'horreur, vous avez donc finalement la réalité rattrape la fiction, donc finalement, quand les mythes inventent des horreurs, finalement, ils sont finalement pas si éloignés de la réalité. Et donc les sabbats de sorcières, alors là aussi c'est complètement unique dans l'histoire de l'art, il n'y a pas d'équivalent, au moins jusqu'à ce moment-là, on voit quelques-unes chez Fuseli, Blake, qui sont d'ailleurs des contemporains. C'est aussi une tendance d'aller explorer la face sombre, la face cachée de l'humanité ou de l'esprit. Mais là, chez Goya, ça se double aussi quand même d'une misogynie qui devient patente. Les femmes étant puissantes, évidemment, il a vu dans la séduction, dans la beauté, dans les rapports amoureux, etc. Cette puissance-là peut se transformer en terreur. Alors, c'est ce qu'on reprochait aux sorcières. Alors, il y a des très bons livres sur justement celle qui était accusée de sorcière pour des raisons diverses et variées. Mais là, vous avez, il reprend des mythes sur les enfants pendus, sur l'idée que justement la maternité se transforme en infanticide, donc ce qui était positif devient négatif, le soleil se transforme en lune, le dieu solaire devient un dieu animal, le bouc, vous savez, c'est aussi le dieu, c'est l'animal de la sexualité du rut, que les chrétiens ont transformé en diable, les cornes, etc., comme image de la sexualité. Chez les Grecs, c'était le satyre, on a déjà vu cette idée-là, donc l'idée du satyre. Mais là, c'est plus un satyre vecteur d'une certaine vivacité, etc. Là, c'est vraiment quelque chose de monstrueux. Donc vous avez une inversion, ici, le jour et la nuit, les chauves-souris, etc. Alors c'est quand même l'occasion de faire d'une peinture d'une force incroyable, y compris dans sa patte. Alors, ça, ce sont des peintures personnelles. C'est-à-dire que Goya, je ne crois pas que ce soit, c'est pas des commandes, c'est pas des choses qui vont être dans les salons, c'est plus du tout pour la cour, évidemment, c'est plus du tout des cartons de tapisserie. C'est une sorte de recherche personnelle. Et là aussi, c'est assez rare. On n'avait pas vu jusqu'à présent beaucoup d'artistes qui peignaient vraiment pour eux-mêmes, pour s'exprimer, pour exprimer leurs angoisses et leur terreur. Jusqu'à présent, presque toujours les artistes, s'ils avaient déjà un secret, soit les passer dans des commandes, dans des sujets, etc. Là, Goya se libère totalement des contraintes, on va dire, sociales, ou de la commande, ou même du métier traditionnel. De ce point de vue-là aussi, il est extrêmement intéressant. C'est un des premiers artistes qui se libère, qui s'affranchit réellement dans toute une pratique de son art, et comme il s'en affranchit, eh bien, il se libère, que ce soit les sujets, les formats, etc. Jusqu'à faire, effectivement, dans sa maison, la Quinta del Suelo, la maison du sourd. Alors là, vous avez encore ces peintures qui sont connues. On peut y voir, alors, c'est quand même toujours des figures féminines. Alors, la folie chez les hommes, on va dire, ça va être les asiles, ça peut être compris, cette espèce de violence qu'on trouvera dans le genre masculin. Il y aura aussi de la violence. Il n'est pas en train, dans sa peinture, de dire le masculin est bon, le féminin est mauvais. Mais comme s'il allait essentialiser le type de délire et de bascule qu'il peut y avoir. Chez les femmes, ce serait une sorte de folie nocturne, sorcière d'inversion des valeurs de maternité, de beauté, de séduction, de sexualité, etc., épanouie, mais qui se transformait effectivement en force de mort, en infanticide, et en laideur et en nuit. Et chez les hommes, ça sera la guerre. Alors, cette peinture est connue dans le même temps, c'est au niveau des dates, c'est chronologique ce que je vous montre. Depuis que j'ai fait le flashback, souvent c'est chronologique. C'est-à-dire que c'est un Goya qui est double aussi. C'est un Goya qui est double, et on le voit bien ici. Pourquoi il n'est pas très net? Bon, j'ai essayé d'avoir en meilleure qualité. C'est toujours Charles IV avec sa famille.
Ah non, elle est d'assez bonne qualité.
Oui.
Non, elle n'est pas terrible, mais pourtant, je crois que vous avez meilleur. Alors là, vous avez effectivement un portrait double, on peut dire, puisque vous avez la famille royale qui est en pleine lumière, avec toujours ses airs perdus, y compris la coupe rosée, rouge, etc. Vous avez même la reine qui semble, elle aussi, complètement factice, hein, toutes ces personnes. Les expressions... abruti, hein, y compris même le bébé, le pauvre, elle est un petit peu niais. Bon, vous avez y compris, attendez, c'est la reine mère là, qui est terrible, qui a la mère effectivement de hibou, etc. Et vous avez un paradoxe, c'est Goya dans l'ombre, un autoportrait. C'est celui qui est dans l'ombre, il voit l'envers des choses. Lui, il est, regardez, il a un regard là, totalement lucide, posé, etc. Il est dans l'ombre, mais il est dans la vérité. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la lumière, c'est factice. Alors là, vous avez une dimension totalement critique et évidente. Mais que la famille royale ne le capte pas. Le tableau, il est accepté, parce qu'en plus, Goya est toujours sur le fil, c'est-à-dire qu'il est tellement vrai sur ses portraits, il est tellement juste que chacun se reconnaît parfaitement. Vous avez cette idée aussi qu'il dit la vérité, il met à nu, mais il ne caricature pas. Donc, et vous avez l'impression que lui seul sait voir la dimension critique. Et ça, c'est cette double tension qu'il y a chez Goya, on la voit très bien dans ce portrait extraordinaire. Alors, c'est d'une virtuosité telle que ça passe aussi, hein, puisque sa façon de traiter les brillances, les textures, y compris les figures, même les peaux, fait que c'est un portrait évidemment critique ou ironique, dans lequel en plus il se met en scène avec l'envers de la toile, c'est une citation de Velázquez, évidemment, de Lénine. Vous voyez l'envers de la toile, ça dit aussi que lui il est dans l'ombre, il voit l'envers des choses, mais il voit mieux, même s'il était derrière. C'est un classique. Hein. Donc là, vous avez vraiment. Une ironie remarquable. Alors, vous avez d'autres figures de la famille royale, avec la coiffure, etc., où il est sans pitié, y compris leur posture, leur bonnet, leur visage. Parce que là, je ne connaissais pas, je l'ai découvert, et vous avez ici le peintre en train de représenter encore ces figures dans une sorte de la coiffure du roi, ou de la reine, je ne sais plus, ou du prince. Hein, donc, une scène un petit peu d'intimité. Qui semble inachevé, je pense que c'est une peinture inachevée ou très abîmée, et je l'ai trouvé récemment. Donc,
il y a un qui rigole.
Alors, il y a celui-là qui rigole, qui regarde, effectivement, qui a une sorte de drôle de bonnet, donc on est vraiment dans un décalage, il y a quelque chose qui échappe au respect ou au protocole, si vous voulez, comme l'étiquette qui semble là, en train aussi de se défaire. Hein,
là, c'est quoi excusez-moi, c'est un jeu de cartes ou c'est...
Alors ça, c'est un jeu de cartes. Oui, les jeux de cartes espagnols, la copa, le bâton et puis l'épée. Hein, et l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Alors regardez une étude justement de la reine-mère qui sera dans le tableau suivant. Cette étude est remarquable. D'abord, on voit le travail de Goya sur un fond mi-teinte en terre de sienne. Et puis, ça touche une virtuosité, d'une liberté... Là. Il vous torche ça en trois coups de pinceau et il ralentit sur le visage, effectivement, mais directement, sans préparation. C'est une peinture directe. Et chez Goya, il se fait de force hein, permanente. Donc, étude. Là aussi, et les études, alors j'ai trouvé ça récemment, hein, je ne les connais pas, alors qui montre bien le geste de Goya. Hein, et pareil, son empathie, même si on peut le trouver par certains côtés caricatural, au-delà de l'habit, ben, il y a un homme vieillissant, etc., qui est vu avec énormément d'attention. C'est pas du tout. Donc l'attention que pose Goya sur ces sujets montre qu'il y est extrêmement sensible, là aussi. Alors ces études, je crois qu'elles sont à l'Escorial, elles ne sont pas dans un musée, on ne peut pas les voir. Je crois que c'est des collections. Alors là, vous avez aussi son génie, bon, dans la lumière, regardez les ombres sur les cheveux, les coiffures, et puis l'évidence avec laquelle il trace. Alors là, ce n'est pas Maria Luisa, donc c'est une des princesses. Alors là, les fameuses Mara Vestita, hein, qui était sans doute donc une jeune fille habillée, mais avant d'être habillée, elle était dénudée. Et c'est ça, l'histoire de ces deux nus, c'est que dans un premier temps, Goya avait fait cette peinture sans l'appeler non plus ni Vénus, ni donner un prétexte mythologique. Et ça a été extrêmement mal perçu, puisque certains y ont reconnu la duchesse d'Albe, ou ce qui aurait pu être la duchesse d'Albe, donc vraisemblablement sa maîtresse, et ça devenait totalement inconvenant. Et en plus, il n'y avait pas de prétexte, on va dire, mythologique à la représenter. Autre chose, elle regarde droit dans les yeux. La tradition, sauf dans les Vénus, le Titien, mais qui sont des Vénus qui justement ne regardent pas droit dans les yeux, ou alors sont beaucoup plus pudiques au niveau de la posture. Mais là, les bras croisés, les seins de côté, le ventre et le pubis presque visibles, les cuisses serrées, etc., vous avez un érotisme évident, avec la carnation, etc., fait que Goya a dû, presque contraint, a dû repeindre, les faire, je crois qu'il a fait croire qu'il avait repeint les habits dessus, il a présenté la suivante, et en faisant croire, en gros, que la première avait disparu, mais en habillant, on retrouve ces habits qui sont extrêmement près du corps, sur lesquels Goya, justement, a un peu contourné l'espèce d'interdit ou de scandale, en la habillant, mais avec des habits qui, au lieu des habits volants, cachant le corps, sont extrêmement près, reprennent exactement toutes les cuisses, le pubis, la taille et les seins, etc., le même regard, allongé et affalé sur un lit, etc. Donc, là encore, vous voyez, Goya aux prises avec des tensions, la morale, et puis Goya qui est souvent aussi sur une frontière. Hein. Quand il fait le portrait de la famille royale, il y a la limite de la caricature, là, il y a la limite du scandale à chaque fois. C'est quelqu'un qui pousse un petit peu les frontières de la convenance au cœur même de la cour espagnole. Ce qui passe à chaque fois aussi, c'est la virtuosité de son travail, sa capacité à traiter les chairs, les habits, les tissus, les couleurs, et puis toujours la présence de ces corps-là qui est d'une vie incontestable. Alors évidemment, il y a quand même un moment de bascule, on va dire définitive, qui va l'amener vers la pénombre, on va dire quasi totale, c'est l'arrivée des troupes françaises en Espagne et à Madrid, puisque Robespierre l'avait pourtant dit, les peuples n'aiment pas les missionnaires armés. Donc, par exemple, juste un truc, Robespierre était contre l'envoi de troupes en Europe. Il y avait des guerres de défense comme l'Allemagne, oui, mais envoyer des troupes en Europe sous prétexte de défendre la Révolution, c'était quelque chose que Robespierre n'avait pas défendu. Donc, par la suite, Napoléon et d'autres ont commencé à le faire, en s'appuyant sur une sorte de souffle de la Révolution française qui serait théoriquement appelée de leur vœu par les peuples européens. L'idée, c'est que les troupes françaises allaient être accueillies comme des libérateurs contre les têtes couronnées. Vous connaissez un peu l'histoire, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. La catastrophe en Russie, etc. Et en Espagne, c'est effroyable. C'est une guerre de conquête violente, faite par des soudards. Pour placer, en plus, Napoléon, il placera une partie de sa famille. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est terrible. Et Goya se trouve partagé, effectivement, entre d'un côté son affinité, on va dire, intellectuelle, culturelle pour la Révolution française, et puis en même temps voir son peuple, quel qu'il soit, même les pauvres peuples un peu arriérés espagnols ou l'aristocratie dégénérée, mais il est partagé effectivement entre ces deux forces. Et il se retrouve justement, c'est la première fois que vous avez un artiste qui se retrouve cette fois-ci un témoin presque impartial parce qu'il ne sait pas vraiment quoi choisir. Quand il voit les horreurs faites par les troupes françaises ici à Madrid, et le peuple madrilène qui se révolte et qui effectivement dans un corps à corps terrible, hein, la violence, elle est partout. Et elle est, et c'est là où Goya réussit à concentrer dans le dos des maillots, le 2 mai. Hein, le 2 mai, il y a le dos, c'est le 13 des maillots. Alors là, vous avez effectivement la bascule dans la folie. La folie, on va la voir par les yeux exorbités qui ne voient plus rien. Vous avez vu très souvent chez Goya, le regard a beaucoup d'importance. Hein. La peinture qu'étale si elle se regarde dans un miroir, déjà, donc vous avez cette idée. Et puis on a vu les regards flottants, les regards droits, les regards complices, c'est quelque chose qu'on voit très souvent chez lui. Et là, c'est des yeux exorbités qui ne voient plus rien. C'est-à-dire que, effectivement, personne ne se voit vraiment. Ils sont absolument habités de l'intérieur par une sorte de haine et une violence tous azimuts, que ce soit les mamelucs, donc qui sont en tenue orientale, mais qui sont avec les soldats français. Hein, ceux qui sont la cavalerie, ce sont les soldats français, et le peuple espagnol ici, de Madrid, qui sont les gens un petit peu de catégorie de condition, qui sont dans un corps à corps à l'arme blanche effroyable, avec la seule les seules personnes innocentes semblent être les chevaux, qui sont dans une sorte de nacré sublime au centre. Hein. Mais vous avez, avec Goya aussi, ni perdant ni gagnant, un chromatisme prodigieux dans lequel vous avez du noir, du blanc, du rouge, du jaune, hein, comme on avait vu avec des éléments verts. Et ce qui est drôle, c'est qu'on retrouve quand même la plénitude des corps. Même là, ce sont des vrais corps vivants, tous, y compris dans leur folie. Donc vous voyez que la folie qu'on avait vue précédemment, la plénitude des corps, les couleurs, les regards, et c'est de bascule dans l'horreur, ça c'est quelque chose qui se concentre. Autre chose qui ici chez Goya est assez remarquable, c'est l'utilisation de la trace et de la peinture, on va le voir. Quand il traite le sang ou la mort, on n'est pas dans le détail. C'est de ce point de vue-là. Toutes les peintures du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, qui se plaignaient des peintures d'histoire, étaient dans le détail. C'était une sorte de narration précise. Là, Goya a l'impression qu'il est dans l'urgence, et il ne va pas s'attarder de façon, on va dire, vulgaire sur les blessures, sur le sang, sur comme si, effectivement, s'il s'attardait sur le sang ou sur la représentation de l'horreur, c'est aussi être plus de l'horreur. Donc il met une distance avec la scène par la trace, par le geste, comme si effectivement c'était, il ne voulait pas participer de l'horreur. Il la montre sans être complaisant. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est assez typique de Goya. C'est un des premiers qui réussit à montrer les scènes horribles sans complaisance. Donc, justement. Et c'est la peinture qui met une distance. C'est la matière, le geste, le flou, qui met une distance. Alors évidemment, la scène suivante, alors, elles sont toutes les deux à Madrid, elles sont assez. Alors, ça, c'est. Je crois que j'ai plusieurs. Ça, c'est un scan de ma vieille carte postale que j'avais dû voler au Prado. Mais en fait. Ça se faisait.
À quelle époque?
Est-ce qu'il en reste encore?
Ça devait être en 76.
Je voulais
voir
en 76.
Ouais, mais. Alors là, évidemment, le 13 des maillots, là, vous avez quelque chose où Goya, quand même, arrive à une dimension vraiment critique, où là, vous avez effectivement le bien et le mal. Pas forcément le bien, mais vous avez des forces aveugles. Ouais. C'est là où la question du regard, c'est que vous avez les soldats français sont aveugles, ils sont tous penchés sur leurs fusils à mitraille, etc., avec une mise en scène remarquable de répétition, là, tac, 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 avec la scène comme presque déjà, presque une chronophotographie avec la bande des soldats qui se perd dans un truc, la répétition des fusils, leur posture, le fait qu'ils ne voient pas ce qu'ils font, donc il y a un peu robot avec le barda, l'uniforme, qui montre qu'effectivement ils sont déshumanisés, alors que en pleine bataille, Goya voyait encore les corps, voyait encore les visages, voyait encore dans ce corps à corps, il y avait encore la vie. Là, on effectue des forces de mort. Et puis, ce travail de séquence chez Goya est absolument prodigieux. Séquence ici avec une espèce de répétition. Et là, une séquence en 1, 2, 3, 4 figures. Et comme une sorte de cercle ici. Un qui se ferme les yeux, l'autre qui lève les bras, celui qui baisse les bras, et celui qui. Tac, 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 tac. Avec celui qui attend, qui sait qu'il va être le suivant. Celui qui attend les balles, celui qui a déjà été touché, et celui qui est déjà mort. Donc vous avez un travail aussi sur le temps et le cycle ici qui est absolument remarquable. C'est que vous avez une composition d'une efficacité prodigieuse, le ciel noir absolu, et le blanc, évidemment, de la chemise, la lumière discrète qui vient du fanal, mais en fait qui semble venir de l'exécuté, et puis la tache rouge qui serait absolue. La tache rouge qui serait absolument immonde si elle était détaillée, mais qui est une sorte de peinture pure, un petit peu justement quand on s'éloigne du sang, sorte de descriptif semblant pour aller vers effectivement une sorte de transcendance un petit peu de la mort. Et là, encore, il réussit à utiliser les couleurs, l'utilisation de la force des couleurs pures qu'on avait vu dans des scènes beaucoup plus joyeuses et gaies, qui est là au service. C'est quand même les forces de vie, ils sont morts, mais ce sont des forces de vie, des couleurs pures, à peu près toute la gamme. La gamme de l'arc-en-ciel se trouve ici quasiment, de l'indigo au rouge, en passant jaune, vert, bleu, etc. Et c'est assez remarquable. Et là, des visages, évident. Et puis, la solitude des exécutés, ça aussi, c'est quand même. Parce que quand vous avez le corps à corps du 12 des maillots, et quand vous avez ici le 13 des maillots, vous n'avez plus l'armée espagnole officielle. officiel, ni l'aristocratie, ni personne. Le peuple est seul. Donc vous avez aussi chez Goya, on voit qu'il y a une empathie pour ce peuple espagnol qui est peut-être un peu abruti, qui était inculte, qui en fait défend une aristocratie, défend un régime totalement minable, mais en même temps qui ne mérite pas d'être traité comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait une révolution, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. C'est pas avec la violence, des armes, etc. Et vous voyez là, Goya aussi est en même temps partagé, mais il choisit quand même assez clairement le camp finalement dont il est. Alors ça, il épargnera plus tard, mais presque de mémoire. Et en tout cas, ça témoigne effectivement du rapport à la politique et au monde de Goya. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est, je pense que là, il est extraordinaire, parce qu'on va de l'intime, le plus intime possible, toutes les gammes jusqu'aux fascinations pour la folie. Il intègre la question de la religion, la politique, la dimension sociologique, il brasse un peu tout avec un monde qui est bien à lui. Alors, celui-ci, je ne vais plus vous montrer quand on a fait la lettre de Vermeer, parce que c'est aussi une jeune femme qui lit une lettre avec un petit chien. Alors, il continue quand même, même dans ce monde un petit peu qui s'assombrit très clairement, il continue à avoir quelques portraits et quelques commandes. Mais là, il y a quelque chose de plus cru. Les personnages ici, sans doute milieu, on va dire, classe supérieure, sont quand même au milieu d'une foule, ici, de lingères et de gens du peuple, le long du fleuve, et dans un extérieur qui est plus déconnecté. Et vous avez donc là quelque chose qui est peut-être plus vrai, du point de vue du rapport entre le sujet principal et le décor. Y compris une peinture qui est au niveau technique, qui est plus gestuelle, qui est plus rude, qui est plus dure, que l'on trouvera dans Quetal, les vieilles. Là, il y a une touche qui est plus libre. Alors, ici, ça je vous les avais déjà montré, alors je vérifie. Donc, j'arrive donc, j'ai refait une sorte de chronologie, et je reviens où on était parti. On revient à ces peintures sombres. Puisqu'effectivement, là, un petit peu la boucle est bouclée. Vous voyez, c'est l'évolution de Goya qui, progressivement, revient vers la pénombre. Et là, c'est la fête de Saint-Isidro, comme on l'a vu, dans cette série des peintures noires. Alors, et là, j'ai vu un truc, alors c'est un peu bizarre. Tardivement, j'étais un peu étonné, parce que au début, je vois cette peinture comme étant de Goya. Et une peinture post-Dos Tres de Rio, post-peinture noire. Parce que c'est une peinture vers la fin de sa vie sur deux saintes espagnoles de Madrid. Et je trouvais vraiment rien de Goya. Et il est vraisemblable en fait que c'est un peintre qui a utilisé un carton de Goya pour ensuite faire cet hommage à ces deux figures tutélaires de Justa et Justa y Rufina, je crois que c'est. Par contre, j'ai vu et j'ai trouvé le carton de Goya. Attendez, j'espère qu'il est. Voilà. Où là, on est plus dans du Goya. Là, on est plus dans du Goya, presque un petit peu presque du Gréco. Où là, effectivement, il n'y a pas ce côté un peu édulcoré, il y a une véritable tension. Elles ont l'air un petit peu demeurées aussi. Donc, il y a quelque chose qui est plus libre et plus cru, évidemment. Donc, si vous voulez. Donc ça, c'est un peu le dernier Goya, avec un petit peu certains de ses tensions et de ses mondes. Vous voyez aussi.
C'est très drôle d'ailleurs, parce que par rapport à l'autre tableau où elles sont illuminées,
ben oui.
Celles-là, elles sont en train de se dire qu'en fait, il n'y a rien aussi.
Oui, elles ont une sorte de regard un peu de doute, alors que là, il y a, vous voyez la différence. Donc, vous voyez comment le même sujet, la même pose, le carton, ou alors Goya, alors Goya ensuite, sur sa vie, il va se réfugier. Ensuite, il va revenir en France, à Bordeaux, à Castres, il va travailler à Castres aussi. Il va mourir à Bordeaux, donc exilé aussi, bien qu'il ait une certaine dent contre la France, mais bon, c'est pas tellement son problème. Il est ici dans son monde, et il meurt à Bordeaux. Alors, je voulais quand même vous montrer, parce que ça fait partie évidemment de l'art de Goya de façon assez évidente, c'est son travail aux gravures et aux dessins, dans lequel effectivement. Alors, je ne vous montre pas tout parce que j'ai quasiment tout récupéré sur les gravures, les désastres et les caprices. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est le rapport. À l'origine, c'est quand même les figures féminines, avec les tétales. J'ai essayé de garder souvent aussi un fil autour des portraits féminins. C'est dans ces gravures de la guerre, hein, des désastres de la guerre, c'est la place donnée aux femmes qui est parfois justement paradoxale et positive. Si dans les caprices, elles sont montrées un peu comme des sorcières, un peu des forces terribles, dans les désastres de la guerre, il va montrer des femmes combattantes de façon un petit peu détournée, qui sont assez incroyables. Sa série des désastres de la guerre, c'est aussi incroyable. C'est en fait le premier document, historiquement parlant, hein, comme avec le dos et le trait de Maillot, vous avez un artiste qui est témoin, qui n'est pas un peintre de commande, d'histoire, etc., mais quelqu'un qui justement, par son impartialité, sa lucidité, par son expérience de la vie espagnole, etc., est capable de parler à peu près franchement de ce qu'il a sous les yeux. Et les désastres de la guerre, c'est aussi un témoignage sur ce que c'est vraiment une guerre. On entend les guerres napoléoniennes, mais ce que c'est vraiment la face cachée, dans l'histoire de la guerre, c'est-à-dire vue du côté des victimes ou des bourreaux, mais dans le détail. Effectivement, la guerre, c'est des individus qui meurent, ce n'est pas des quantités, ce sont des individus singuliers. Et là encore, on trouve l'empathie de Goya pour les êtres humains, hein, sur leur façon de mourir ou de résister. Et la gravure a quelque chose d'une force terrible, puisque d'abord, c'est un outil acéré, pour s'inscrire, ce qu'on appelle une eau forte, vous connaissez la technique, hein, c'est une plaque de métal qui est recouverte de vernis, et on va gratter avec une pointe. Une fois que c'est gratté avec la pointe, on le plonge dans l'acide. L'acide va attaquer là où le vernis a été gratté. Ensuite, on enlève le vernis et l'acide a fait des trous. Ensuite, on met de l'encre et on imprime. Alors, Goya invente aussi, en plus, là aussi en gravure, c'est quelqu'un qui a inventé une technique. Je vous ai parlé du gris dans la peinture. Et Goya, c'est celui qui invente ce qu'on appelle l'aquatinte. L'aquatinte, c'est une sorte de gris, de résine comme ça qui va... une sorte de, un peu grumeleuse, qui va laisser passer l'acide en partie. C'est-à-dire que ça va un peu comme si ça martelait la surface du métal. Ce qui permet ensuite d'avoir une sorte de gris et de nuance assez extraordinaire. Donc Goya, c'est le premier qui s'est utilisé cette espèce... Avant, pour avoir des gris en gravure, il fallait faire des hachures, des croisements de hachures, des gris colorés, hein, par des hachures. Et Goya réussit à faire une sorte de... Je crois pas me tromper, c'est lui qui invente vraiment ça. Une sorte de résine qui justement permet d'avoir une gamme comme ça de trames de gris qui donne une dimension picturale et de lumière à ces gravures qui est unique. Comme on voit ici. Et là, vous avez une femme qui reprend un canon au français et qui le redirige, etc. Elle est dans l'ombre, elle est joncée sur un tas de cadavres. Alors, la vie, la mort, la beauté, la guerre, vous avez un peu tout ça condensé. Et il y a quelque chose aussi qui est évident en gravure, c'est qu'on peut pas... le côté témoignage, qui est un peu brut, parce que c'est un geste un peu dur aussi, qu'on fait presque dans l'urgence, hein, la trace de son geste, il réussit aussi dans sa gravure, la trace qu'il avait en peinture, il a aussi dans le geste de dessin, y compris de gravure, alors que souvent la gravure, c'est un peu, vous voyez, moins le geste, parce que c'était un travail, on va dire, plus lent, avec beaucoup d'intermédiaires. Vous avez le vernis, vous avez la pointe sèche, vous avez l'acide, puis vous avez l'encre. Donc, ça fait beaucoup d'intermédiaires entre votre geste et le produit final. Et là, Goya réussit à faire des gravures qui ont cette espèce de touche assez remarquable. D'où, chapeau le gars. Alors là, vous avez justement bien, les cadavres, hein, sur les cadavres. Et cette fois-ci, hein, une empathie, on est très loin de la plaisanterie. Là, vous avez une autre, alors ça, c'est pas les désastres de la guerre. C'est bataille avec une chaussure, alors c'est presque avant du Zola, les batailles ou la voir, etc. Donc, j'aurais dû la mettre avant. Alors ça, c'est pas une gravure, c'est une peinture. Un lavis. Alors là, vous avez, dans les désastres de la guerre, et la violence, vous avez la violence de la revanche, qui n'est pas terrible non plus, avec effectivement un soldat sans doute français qui va être empalé, etc., une fois mort, battu. Effectivement, la rage et la violence, une sorte de débordement là aussi, dont Goya est le témoin. Alors les documents ne sont pas toujours très bons, parce que c'est assez difficile d'en arriver. Là, vous avez les scènes qui sont intéressantes. Effectivement, la mère qui défend sa fille d'un soldat qui s'apprête à violer, etc., on voit auprès d'un pont, dans un endroit sans doute reculé. Et cette idée d'une violence légitime aussi. Ça aussi, donc, vous voyez que chez Goya, le rapport, y compris au, à l'univers féminin, aux âges, c'est un peu complexe. Là, cette femme âgée, elle a la force, le courage et la dignité, y compris de retourner l'arme contre l'agresseur, le violeur de sa fille, etc. Donc, Goya n'est pas juste dans une sorte de misogynie perpétuelle. Il y a aussi parfois des sortes d'hommages indirects qui sont rendus comme ça. Alors là, le drapé, hein, le corps, vous avez le tissu aussi toujours près du corps, qui font même les cuisses, etc. Il utilise le drapé pour renforcer le mouvement.
La main de la dame qui est agressée, la main est assez grande.
Oui, oui. Alors, tiens, on pourrait mettre ça en relation avec les peintures de Watteau, hein, le faux pas, etc. aussi, la prise de pouvoir et la violence. Alors, là encore, vous avez des femmes qui essayent de résister, qui prennent les armes et les épées, hein, pour résister. Et là encore, une qui est agressée et prise par un soldat. Donc vous voyez que là encore, des scènes qui sont déjà totalement tues, évidemment, dans l'histoire officielle. Goya révèle souvent une face cachée. C'est que lui, sa gamme, c'est qu'il ne recule devant rien, puisqu'effectivement, il a comme une sorte de capacité à voir et à sentir et à vouloir à tout prix témoigner. Vous voyez que cette espèce de force qu'il a, dans le pire comme dans le meilleur, elle est presque toujours dans cette question d'une hypersensibilité, mais empathique. Y compris la peur, justement, de la bascule, hein, de l'humanité qui peut être si belle, mais qui peut être aussi si sombre. Alors là aussi, vous avez une scène de corps à corps terrible, avec les femmes encore qui résistent, hein. Alors, voir les désastres de la guerre, c'est quelque chose qui est un peu oublié, mais moi, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup. Et là, je vous les ai rassemblés essentiellement. Il y a d'autres choses dans les désastres de la guerre, mais il y a beaucoup de scènes qui sont effectivement avec ici cette femme qui défend son enfant, hein, et celle-ci qui utilise ce qu'elles peuvent contre les soldats français, et avec une certaine efficacité. Donc, une bravoure et un courage, où là, effectivement, et le gris, c'est le brouillard, hein, qui est extraordinaire. Hein, qui est utilisé en gravure, qui met en scène le blanc aussi, la lumière sur des figures au premier plan. Et là, voilà. Alors, ça on a vu. Ah oui, celle-ci, c'est une scène de charnier. De charnier, de corps jeté dans un charnier. Avec là encore, le paradoxe d'un corps qui, peu de temps avant, était plein de vie, une femme avec son enfant, hein, et d'autres qui sont jetés ici, avec même des bras et des mains. Coupé, hein, que l'on voit à gauche et à droite, alors une violence absolue au niveau des meubles. Et là, alors, on voyait peut-être un des derniers artistes à avoir vraiment montré la violence de la guerre, hein, parce que par la suite, c'est très difficile. Par les gravures, par exemple, on va retrouver que Autodix, hein, qui va faire les gravures avec les tranchées de la guerre 14-18, mais lui, il va les faire 10 ans plus tard. C'est aussi cette idée que jusqu'à quel point est-ce qu'on peut montrer l'horreur. Et Goya, de la même manière avec le doigt sur le trait des maillots, il réussit toujours, il est sur le fil. Hein, parce que s'il était trop dans la précision et l'illusion, ça serait des scènes qui seraient insupportables de voyeurisme, mais cette espèce d'urgence de son trait, la juste distance qu'il a réussi à trouver, lui permet de traiter des scènes effroyables, hein, d'une horreur absolue, mais avec un ton, au sens strict, qui est assez exceptionnel de justesse. Alors, ça, alors là, vous avez encore des scènes d'enlèvement, de rap et de viol, avec des enfants, des bébés aussi, et ces femmes, et ces forces soldatesques. Alors on sait très bien, hélas, que ça commence à ressortir maintenant, mais le viol comme arme de guerre, c'est quelque chose qu'on se rend compte d'abord, que, y compris les forces alliées l'ont utilisé en Allemagne, que ce soit les Américains ou les Russes, etc., les Français en Algérie, au Maghreb et en Indochine, etc. Et actuellement, on sait très bien que c'est quelque chose qui est effroyablement utilisé de façon systématique. Mais c'est tu. Et Goya, c'est un des premiers, quelque part, à être lucide aussi là-dessus. Hein. Donc, si vous voulez, Goya, on peut dire qu'il y a une sorte de. Il explore sa misogynie plus qu'il n'est misogyne. Il explore une part de misogynie en lui, mais on ne peut pas dire. On ne pourrait pas le caractériser comme misogyne, parce qu'il y a là une empathie évidente sur ces femmes victimes, évidemment. Donc, voilà des pistes pour Goya autour, alors c'est pas tout Goya, hein, c'est autour de les vieilles, hein, dont c'était le titre. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur lui? Ah oui, alors les gravures, si vous voulez les voir, c'est en France qu'elles sont le mieux conservées et exposées, au musée Goya de Castres. La ville de Castres est un musée consacré à la peinture espagnole, parce que Castres, on n'est pas loin de l'Espagne, et puis il y a pas mal d'abord de réfugiés, il y a toujours eu une présentation. Goya lui-même y a laissé une œuvre qui est un peu bizarre, mais bon, c'est un grand tableau de groupe, un peu étrange. Et ils sont déposés, les tirages de qualité, sauf que c'est des gravures, c'était des multiples. Mais ils ont des tirages de très bonne qualité, alors pas d'époque, mais qui ont été faits, je crois, au 18e siècle, au 19e siècle. Hein, certains, et il était question qu'ils les retirassent de façon absolument extraordinaire à partir des plaques, parce que c'est ce qu'on peut faire. Et donc, l'année dernière, là, 2 ans, ils étaient en rénovation, les salles dans lesquelles étaient les gravures, mais vous avez 2 salles consacrées entièrement aux gravures de Goya.
Les plaques, elles sont où ?
Comment ?
Les plaques, elles sont où ?
Alors, les plaques, je sais.
Il est mort à Bordeaux ?
Il est mort à Bordeaux, et je ne sais plus où sont les plaques. Je sais pas où sont les plaques. Toujours est-il que. Alors, est-ce qu'elles sont au musée Goya de Castres ? Je ne sais pas. Mais c'est un beau musée, et notamment pour ça. Alors, voir Goya, on reparlera de Goya quand je parlerai de David, parce qu'en fait, tout ça, c'est contemporain. Hein, par exemple, David et Goya sont nés presque à la même année, sont morts à peu près à la même année, et sont morts tous les deux en exil. Donc vous avez des points communs. Et les deux sont liés à la Révolution française. Vous aurez il y aura des parallèles qui seront intéressants, y compris, donc, n'oubliez pas qui est Goya. Mais là, on va faire un petit détour, pas un petit détour, sur l'architecture. On va revenir un peu, c'est contemporain de Goya, hein, c'est aussi le 18e siècle. Et là, vous allez voir aussi, c'est montré aussi la diversité d'un siècle. Alors, ce qui est caractéristique, vous avez vu avec Londo Nuovo, on l'a vu aussi avec Chardin, on l'a vu avec Goya, c'est un monde qui change totalement. Y compris vraiment avec Goya, c'est la question de la religion aussi. La religion, si on s'en écarte, y compris les fantasmes, la peur, la violence, ce sont des choses qu'on va traiter autrement. Hein. Donc là, je change de chapitre, mais on va revoir des choses qu'on avait déjà connues, dont j'avais déjà parlé. Tout ça, c'est. Imaginez, hein, c'est la fin d'un monde au sens strict, Mondo Novo. Donc, on voit comment il s'est terminé. Par exemple, en Italie avec Venise, on a vu cette fin. Et bien, Kiev aussi, ça termine avec l'arrivée des troupes de Napoléon. Avec Goya, on voit aussi comment l'arrivée des troupes de Napoléon font basculer aussi la vision de Goya sur le monde et la violence, etc. Là, on va être aussi dans la même période, mais on est en France. Si on revient en France, donc on va être en France là et dans le cours suivant avec David. Alors, on reprend la France avec Fragonard, et avec celle dont vous avez parlé, c'est Marie-Madeleine Guimard. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'architecte Ledoux. L'architecte Ledoux, alors je suis un peu bête, mais dont vous avez la rotonde, la rotonde Ledoux qui est à Paris, voilà, près du canal Saint-Martin, c'est une des rares constructions à Paris de Ledoux. Et donc c'est un architecte, exactement dans la même période que les artistes précédents, donc on est vraiment fin 18e siècle, fin 18e siècle. J'ai montré des dimensions, on va dire, plus humaines, je vais aborder des questions un peu plus utopiques et plus générales. Mais vous allez voir que en fait, tout est lié. Donc, Ledoux, je vous donnerai alors ses dates de naissance. Ledoux, 1736-1806. Goya était né en 1846 et David est né en 1848. Ça vous donne à peu près des dates. Oui, c'est vraiment des générations très très proches. Alors, avant de vous montrer Ledoux, parce qu'il y a 3 architectes utopistes de la Révolution française, autour de la Révolution française, Ledoux, Boulet et Lequeux. D'ailleurs, il y a une exposition, je ne sais pas, juste j'étais en train de travailler là-dessus, j'ai vu qu'il y avait une exposition sur Lequeux, c'est un drôle de gars, vous allez voir que là aussi, un peu bizarre, à Paris actuellement. Je crois que c'est à la BNF ou au petit pavé. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on retrouve encore une femme au cœur de tout cela, hein, à l'origine de ces architectures, etc., et au croisement, justement. C'est pour ça que je vous dis tout est lié. Voilà la peinture de Marie-Madeleine Guimard, rappelez-vous, par Fragonard. Marie-Madeleine Guimard, qui était à la fois une danseuse, une artiste, hein, une dessinatrice. Et on la voit d'ailleurs ici peinte par Fragonard, je vous l'ai déjà montré, avec l'élan assez extraordinaire, la grâce, sa taille extrêmement menue, elle était réputée pour être toute menue, toute petite, hein, et au milieu de croquis et de papier, hein, de camé, je crois que c'était aussi une dessinatrice de camé, je crois. Et là, on la voit appuyée, mais campée avec grâce et avec un certain dynamisme en se retournant, etc. Mais dans un monde un petit peu fermé à la Fragonard, avec une sorte d'énergie qui cherche à sortir un petit peu le cours. Il y a un portrait d'elle, alors c'est là où c'est assez étonnant, il y a plusieurs portraits d'elle. Celui-ci est fait justement par David. David, avant qu'il soit le peintre, on va dire, néoclassique, c'est quelqu'un qui va peindre aussi Marie-Madeleine Ledoux. Vous voyez, on a Fragonard, on a David. Hein, donc à chaque fois, on voit que c'est une figure féminine qui est absolument centrale et cruciale. Alors, David, ici, ben, il est dans la tradition quand même du peintre un petit peu de cour qu'il fut aussi. Hein, dans une certaine, dans l'art classique, on n'est pas du tout à Goya, hein, il y a une sorte de lycée. Maîtrise de tous les éléments, on verra plus tard l'idée de la maîtrise chez David, avec ici la cornemuse et la danse, l'arc, l'éros, l'amour, c'est-à-dire que autour de Marie-Madeleine Guimard, vous voyez la grande différence entre Fragonard et David pour ce qui est de représenter la même figure, la même personne. Ici, on dirait presque une sorte de poupée, on dirait presque une porcelaine de Sèvres, etc. David, alors, David lui aussi aura un côté misogyne qui changera, on verra, la Révolution française le fera changer aussi sa misogynie. Il y aura un rapport à l'univers féminin qui sera différent. Là, c'est une peinture alors, anonyme de la même. Elle aussi, donc, était réputée pour être extrêmement gracieuse, vive, et assez fascinante pour être effectivement au cœur de d'œuvres d'art de beaucoup d'artistes. Alors là, on est plus proche d'une esthétique à la Watteau. Vous voyez, c'est exactement contemporain. Ça vous montre aussi les tensions qu'il y a à cette période du siècle. Et encore elle, cette fois-ci, alors, on est presque une affiche, alors là on voit sa taille extrêmement fine, hein, la tête c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'elle a des petits bras, etc. Des pieds extrêmement menus, là encore on est plus proche de Watteau, on a l'impression d'avoir une sorte encore une petite poupée. Donc vous voyez qu'aussi, en comparant, ça éclaire aussi la vision de Fragonard, qui est une vision beaucoup plus charnelle, beaucoup plus proche de son modèle. David, c'est une construction, et les autres, on est dans des portraits légers, plus distants. Oui.
Une espèce de disproportion entre la tête,
la cheville, oui, bien sûr.
Le petit ventre. Et
tout. Alors, le corset, ça c'était la règle un petit peu, mais
c'était des tortures, ça.
Et une véritable torture. Les bras qui ont l'air petits et la tête, effectivement, qui sont assez grandes. Alors, ce qui est assez étrange aussi, enfin étrange, et j'ai découvert ça récemment, c'est quelque chose d'assurant, c'est que, eh bien, Étienne Boulet, qui est un autre architecte, on verra Boulet et Ledoux sont des architectes assez proches, va construire aussi le pavillon et l'hôtel particulier pour Marie-Madeleine Guimard. Ouais. Et donc voilà. Alors, vous voyez qu'elle est ici, vraiment, on a Fragonard dont je parlais, David dont je parlerai, et puis on a les architectes Utopie, etc. Donc, vous voyez aussi un monde. Alors, ce qui est assez aussi étonnant, vous le verrez, c'est plus étonnant que ce qu'on croit, c'est que ce sont des mondes qui vont traverser une période extrêmement troublée, mais qui vont vivre, c'est des générations qui vont vivre l'avant l'Ancien Régime, qui vont vivre la Révolution, et certains d'entre eux, l'après-Révolution, c'est-à-dire la Restauration. Donc c'est aussi des générations d'artistes très intéressantes, parce qu'il y a un nœud là d'influence et de contradiction qui sont terribles. Alors, ici, donc, vous avez, ça c'est un hôtel particulier qui va vraiment être réalisé, hein. Par contre, je crois qu'il a disparu, sinon je vais retrouver des photos. Et c'est un petit peu de ce style-là dont je vais vous parler avec les architectes en question. Ce qu'on appelle un style à la fois néoclassique, mais en même temps utopiste, et vous allez voir pourquoi. Et c'est là où on va revenir aussi au monde des idées. Alors, ça c'est des portraits, par contre, bêtement, je ne les ai pas mis dans l'ordre. J'aurais dû le mettre, c'est une faute. Je vous montrerai plus tard aussi un peintre d'architecture et lui de ruines, ça aussi c'est cette idée d'un monde finissant, d'un monde réel et d'un monde utopique, c'est Piranesi, un peintre et artiste italien, que l'on voit ici C'est un portrait de lui avec des dessins d'architecture, mais il est aussi connu pour ses dessins et ses gravures de ruines et de prisons. Donc vous allez voir aussi, les fantasmes et les obsessions de l'époque. Alors, quelques portraits. Voilà justement, alors lui c'est Étienne-Louis Boulet. Celui qui a fait le pavillon pour Marie-Madeleine Guimard. Je n'ai pas trouvé de portrait. Nous verrons aussi donc Nicolas Ledoux, Claude Nicolas Ledoux, en 1736. Alors, si, c'est un portrait qui n'est pas de bonne qualité. Et puis on verra aussi le peintre et architecte Lequeux. Ça, c'est un autoportrait typique. Alors, c'est presque un pré-surréaliste. Vous verrez ses peintures et ses dessins, c'est complètement délirant. Donc, il y a une ironie, y compris son visage, on le verra plus tard. Jean-Jacques Lequeux, donc 1757-1826. Pour vous donner une indication, Louis XVI est né en 1855. Marie-Antoinette aussi.
Non,
1755. Robespierre est né en 1758. Napoléon en 1768. Vous voyez, c'est la génération. Et David, 48, Marat, 48. Vous voyez, un petit peu, on se rapproche de nos âges, à quelques années près, à quelques siècles près, c'est à peu près des générations, près comme nous, à cheval sur deux siècles. Mais oui, Louis XVI, 55, etc. Donc c'est vraiment la même époque, même vécu, etc. Et ici, Antonio Canova, 757 aussi, qui est un peintre et architecte italien, lui aussi, Canova, sculpteur, beaucoup, néoclassique, et un autoportrait. Alors, attends, tu vois, ecco, il s'aime bien, voilà. Donc, voilà. Alors, ça c'était pour présenter les personnes que l'on va voir. Alors, par contre, je vais revenir à Ledoux. Ledoux, Claude-Nicolas Ledoux. Alors, le problème des architectes, c'est qu'effectivement, ils peuvent, quand on avait vu par exemple Palladio, c'est un architecte qui, exceptionnellement, a construit énormément par rapport à ses projets. C'est quelqu'un qui, même Alberti, c'est un architecte qui a énormément construit. Mais après, il y a pas mal d'architectes qui ont des projets extraordinaires, et qui vont construire peu, évidemment. Alors, d'autant plus quand ce sont des architectes qui deviennent visionnaires. Qui deviennent visionnaires parce que l'intérêt de l'architecture aussi, rappelez-vous, c'est que ça se projette. On se projette en perspective, on se projette dans le futur, et de toute façon, c'est une vue de l'esprit, l'architecture. Au sens strict, c'est pas une imitation de la nature comme la peinture, pas une traduction de la nature, mais on est dans une projection. Puisqu'on projette l'esprit, on peut projeter n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez aussi, l'architecture va se prêter remarquablement à cette idée de l'utopie, et des projets, etc. Et on est aussi dans un siècle où il est question aussi, de plus en plus, de monde à changer. Et donc l'architecture va être effectivement un lieu d'exploration pour certaines personnes, et on va retrouver les mythes de l'utopie, alors de Thomas More, etc., de la Renaissance, de la cité idéale, alors parce qu'on est une génération qui commence d'abord à penser le monde autrement, le contrat social de Rousseau, Voltaire, Diderot, sont des gens qui commencent à se dire, mais on peut peut-être, on est en mesure maintenant de construire le monde que l'on veut. L'hypothèque religieuse se lève, donc vous avez cette idée aussi d'une prise en charge d'humanité, certains humains, c'est-à-dire on peut prendre en charge notre futur, politiquement, socialement, économiquement, intellectuellement, et politiquement au sens strict, créer des villes, police, politique, des cités. Donc l'architecte va être effectivement au cœur parfois de ces idées nouvelles. Alors, Ledoux en est un. Alors, ça va de projets de maisons individuelles, c'est pour ça que les réalisations qui se font parfois, c'est des maisons individuelles, ça implique peu de monde. Et évidemment, par contre, faire une cité idéale, ça implique plus de monde. Donc vous voyez ce qu'on appelle les morceaux de bravo. C'est pour ça, par exemple, que Palladio a pu faire beaucoup de villas, parce que la villa, il suffit de trouver quelqu'un qui est riche, qui a les moyens, qui va payer son truc. C'est comme ça que beaucoup d'architectes même contemporains, Le Corbusier a commencé en faisant des villas, parce qu'il trouvait des sortes de mécènes. Beaucoup d'artistes comme ça, Eric Welt, etc. Voilà, ça permet, ça engage tout ça. Dès qu'on est dans la ville, il y a les autorités, il y a le public, il y a tout ça. Donc on est dans le collectif. Ça ne les empêche pas de penser la ville. Alors, ce que l'on voit de façon assez claire chez Ledoux, c'est la mise en ordre avec la géométrie. et le cercle comme une métaphore d'un rapport aussi à la nature. C'est retrouver un rapport à la nature par le cercle. Le cercle étant effectivement la forme géométrique originelle, la Terre, le Soleil, les planètes, les ronds dans l'eau, les pupilles, tout ce qui est effectivement le divin, la voûte céleste, quelque chose qui est absolument centré. Donc, faire un rapport entre l'intime et le monde social, etc. Et le cosmos, avec chambre à coucher, cuisine, portier, galerie, et sans doute des étages. Donc un projet de maison individuelle. Alors le cercle, on va le voir très souvent. Et ce qui est assez drôle, justement, c'est que le Doubs va avoir des audaces architecturales, avec des architectures qui vont s'écarter totalement du cube pour aller faire du cercle une sorte de signature. Alors, avec des questions pratiques qui sont assez complexes, comme par exemple la base de cette sphère, les accès et l'habitabilité, y compris les places perdues par les hauteurs, etc. Mais l'idée d'une signature dans le paysage qui soit vraiment en décalage avec une tradition, la volonté de rompre avec une tradition. Ça, on a vraiment cette idée de se projeter dans le futur. C'est pour ça qu'on parle aussi d'architecte futuriste. Et ensuite, à toutes les échelles. Hein, c'est que ça va être la maison de gardien ici, mais on verra, ça va aller jusqu'à des palais, des cités, des villes entières, etc. Là aussi, c'est quelque chose qui caractérise assez souvent l'architecte, et c'est assez logique, puisqu'on avait vu déjà avec Palladio, l'architecture, ça commence par l'intime, parce que la première architecture, c'est protéger, c'est l'outil du corps, c'est l'outil de la peau. Alors, je fais une petite parenthèse, toutes les créations humaines sont des prolongements de fonctions corporelles. La chaise, c'est les talons, la table, c'est les cuisses, le bol, c'est les mains, l'ordinateur, c'est le cerveau, la télé, c'est les yeux, l'avion, c'est les pieds, c'est faire un bond, mais de plus en plus grand. Et bien, si vous voulez, l'habit, c'est l'outil de la peau. La peau, c'est la fragilité humaine, compensée par des inventions et des outils. La peau, elle a des qualités, mais elle est insuffisante. Donc, il faut la doubler par des habits. Et à chaque fois, il y a aussi une fonction sociale, intérieure, extérieure. Et en fait, l'habitation, c'est la continuité de l'habit, c'est un outil pour protéger aussi la peau. Et le premier moment où on a besoin de protéger la peau, c'est le sommeil, c'est la chambre. Le début de la première architecture, c'est le hamac, ou c'est la tente, ou c'est le carton pour les SDF, c'est dormir. Se protéger au moment où on est le plus fragile. Et ensuite, ça grandit. C'est ce qu'on va avoir à la chambre, il faut après manger, se protéger quand on mange, si on reçoit les autres, si on travaille, etc. Mais progressivement, l'architecture, c'est une sorte d'enveloppe qui va se développer. Donc, c'est normal que l'architecte parle de l'intime, puis après, il y a toutes les fonctions organiques du corps, manger, dormir, cuisiner, se reproduire, aimer, etc., lever, et puis ensuite, il y a peut-être penser, réfléchir, prier, éduquer, etc., et vous avez toutes les fonctions, rencontrer les autres, être avec les autres, socialiser, et donc on va avoir des fonctions sociales, et on va passer de la chambre à la maison, de la maison à la rue, de la rue à la ville, etc. Donc vous avez une gradation dans l'architecture, de l'intime au public. Hein. Et c'est assez logique que les architectes donc, construisent tout cela. Alors en général, ils ont des principes, les grands architectes ont des principes qui vont de l'intime jusqu'à l'urbanisme, c'est-à-dire jusqu'à la société. Alors c'est un peu ce qu'on va voir avec vous. Alors, de façon récente, il y a eu des maquettes qui ont été réalisées à partir de ces dessins, qui sont assez convaincants. Et effectivement, il faut presque attendre la boule de la belle ville, de la cité des sciences, pour avoir, une construction sec. C'est à moins 15, hein, c'est fini. C'est
ça. À moins 15 ? Oui.
Ouais. Moins 20. Donc, 2000. Ouais. Alors, voilà, d'autres projets, justement, vous voyez, le Doubs, cette de sphère, il va essayer de la plaquer à plus endroits, par exemple, un cimetière ou un cénotaphe. Hein. Cimetière cénotaphe, avec Colombarium, etc., donc influence italienne, mais là encore, avec des influences qui viennent de Rome, avec l'oculus qui est inspiré, on l'avait du Panthéon de Rome, pour éclairer l'intérieur. Le cimetière est vraiment déconnecté de la religion, on va dire, des religions, et essayer d'inventer une nouvelle scénographie pour la vie, la mort, hein, une transcendance qui ne soit plus uniquement catholique ou chrétienne. Vous voyez, là aussi, il y a des choses qui sont intéressantes, et comment penser une autre spiritualité. Et là, on est typiquement aussi dans les utopies du XVIIIe siècle, qui naissent aussi, qui vont naître avec la Révolution française. Hein. Donc, ben, je continuerai la prochaine fois avec vous. Au revoir, je t'en prie. Et avec certaines maquettes qui sont en modernité, si tu veux bien. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce soit les idées de Diderot, ou de Voltaire ou Hollande de Rouge, ou que ce soit les architectures, on dit qu'il y a encore à puiser. Et même, on n'a pas établi tout le programme a été pensé par les personnes de cette époque-là. Donc voilà les pistes que l'on va continuer la semaine prochaine sur le doux, boulet et le queue. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un tour pour ceux qui veulent. Moi, je suis obligé de me carapater. Et je ferme la ouais. Donc, voilà.